Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, nous sommes ensemble pour évoquer la programmation du Théâtre de Die avec Harold David. Bonjour.
Bonjour.
Une programmation pas mal chargée quand même ce début d'année avec beaucoup de choses. On les avait évoquées un petit peu avant.
Oui,
enfin
en décembre, on avait fait un petit avant-programme, voilà, mais alors depuis là, il est sorti et il s'est finalisé.
Il s'est finalisé, voire même il y a des petits bonus des fois dans des trucs qui ne sont pas tout à fait écrits.
Oui, oui, il y a des choses qui peuvent effectivement se rajouter hors programme en cours de route, effectivement.
Bon, alors donc un petit rappel, ce programme du Théâtre de Die de janvier à juin 2014 est disponible un peu partout et aussi sur internet, le site du théâtre, et donc on va
balayer un peu, voilà,
voilà.
Enfin, plutôt que de prendre chaque spectacle, je vais plutôt essayer de, voilà, d'orienter un peu les points forts de ce temps de programmation. Déjà, donc il y aura trois créations en fait qui sont présentes pendant ces six premiers mois. Une qui a déjà eu lieu la semaine dernière avec l'accueil de la compagnie Premier Acte, et puis le spectacle Pedro Paramo, donc qui a fait l'objet d'une résidence, et puis donc qui a été créé au Théâtre de Die
En lien avec un autre théâtre, hein, il me semble.
En lien avec le théâtre de Vénissieux,
ouais. Ah ouais,
ils
voilà,
avaient
ça.
Deux temps de résidence dans ces deux lieux. On a effectivement Sista Chance et Junior Conny qui ont fait aussi leur résidence et qui ont présenté leur nouveau spectacle, en tout cas une nouvelle étape dans leur travail de création lors de la Winter Session.
Winter Bass Session.
Winter Bass Session, voilà, qui aura lieu le 8 février. On accueille ensuite derrière une conteuse dromoise qui s'appelle Virginie Comagnacchi, qui va être aussi en résidence et qui va faire la création de son nouveau spectacle qui s'appelle Rouge Mémère, donc un spectacle de conte le 20 février. Et on a encore une autre formation, enfin en résidence aussi au théâtre pendant ce premier semestre, qui va faire sa création au mois de mai, qui s'appelle donc la formation Toka Tram, qui est en fait la réunion du Tram des Balkans, que les gens connaissent peut-être plus sous cette appellation-là, et d'une claveciniste classique, donc Violaine Cochard. Spectacle un peu hybride qui mélange musique des Balkans, musique actuelle et musique baroque, avec des allers-retours dans chacun des répertoires et des réinstrumentations propres à justement ces deux répertoires classiques et plus musique actuelle, voilà.
Donc, quand tu parles de création, est-ce que tu peux s'arrêter 5 minutes là-dessus? Création, mm-hmm. Donc c'est le théâtre qui devient producteur?
Alors non, c'est pas le théâtre qui devient producteur, mais c'est la naissance du spectacle en question se fait au Théâtre de Die, c'est-à-dire
vous en tirez quand même un certain bénéfice de ce truc-là, enfin, tu vois,
bénéfice sur le plan, oui, artistique,
oui,
et puis dans le sens où effectivement c'est une de nos missions d'accompagner la création, donc quand justement on peut monter des collaborations avec des équipes artistiques pour faire en sorte qu'effectivement ils aient un espace, un outil de travail, un accompagnement et donc la possibilité de montrer pour la première fois leur spectacle à un public, on peut dire qu'on en tire un bénéfice entre guillemets, mais c'est plus ça s'inscrit pour moi complètement dans le cadre de nos missions et on affirme de plus en plus cette dimension là avec justement, comme je disais, voilà, quatre accueils en résidence et quatre créations sur un semestre. Donc,
et qu'on peut dire complètement différentes les unes des autres.
Et complètement différentes les unes des autres. Bon, là aussi, dans ce souci à la fois d'éclectisme et puis de pluridisciplinarité qu'on a comme obligation en termes de cahier des charges pour la programmation par la ville de Die. Donc là, ça permet d'avoir des aventures effectivement très différentes et singulières à chaque fois avec les artistes, avec tout ce qu'on peut mettre en place comme action aussi autour de leur temps de résidence et puis de la création de leur spectacle. Donc,
ouais, tu peux nous le décrire un peu ça, comment ça se passe? D'abord, est-ce que il y a une sélection des gens qui sont en résidence ou c'est vraiment les demandes qui arrivent comme ça?
Non, c'est... moi, j'ai jamais travaillé comme ça, ni sur une logique de sélection, ni de répondre à des demandes. Quand on décide d'accompagner un projet de création, c'est d'abord une rencontre avec un projet artistique, les gens qui le portent, donc les artistes, la compagnie, etc.
Cette rencontre, puis, c'est comment? C'est eux qui viennent ou...
Il y a plein de modes de rencontres possibles. Ah, ça oui. Peut être effectivement des artistes dont on a déjà vu le travail, qu'on a déjà identifié, donc qu'on va croiser à un festival, à une réunion professionnelle. Il n'y a vraiment pas de cadre prédéfini au départ. Ça peut être aussi des artistes qui effectivement vont nous contacter en direct, qu'on ne connaît pas nécessairement, mais dont on connaît effectivement un peu l'univers, le travail. On va dire que ça peut être intéressant. Et puis, ça peut être aussi des démarches dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on voit des choses de certains qu'on ne connaît pas. Enfin, qu'on ne connaît pas du tout, et avec l'envie de travailler avec ces gens-là, parce que ce qu'ils proposent nous résonne et nous donne envie. Quoi, voilà. Parce que le moteur, c'est vraiment l'envie et le désir de travailler avec une équipe, et puis d'être touché, séduit, enthousiasmé par leur projet de spectacle. Donc, si je prends l'exemple là, de Tocatram, ce qui nous a séduit, c'est justement c'est le projet vraiment qui nous...
L'idée qui fusionne.
Voilà, l'idée de fusionner avec effectivement la musique classique, de pouvoir être dans cette ouverture justement des répertoires, de voir comment ça pouvait s'hybrider, comme on dit, de manière intéressante. Et puis à partir de là, la rencontre s'est vraiment faite avec l'équipe, et puis on a imaginé du coup un projet autour de cet accueil et de cette résidence. Donc il n'y a pas de règles, quoi, voilà, tout est ouvert, et en même temps après il y a des choix forcément qui se font, parce que même quand on a l'envie, on peut pas forcément tout accompagner.
Les places sont limitées.
Places sont limitées, les moyens aussi un peu. Et puis après, il y a aussi une cohérence sur l'ensemble de la programmation, où il y a des fois des projets qu'on décale, par exemple, dans le temps aussi, qu'on se dit, on va pas le faire là cette saison. Donc on voit avec l'équipe si ça les intéresse d'attendre un peu et puis de le reporter sur la saison d'après. Là, plus pour des questions de cohérence sur l'ensemble de ce qu'on va proposer sur une saison donnée, quoi.
Ouais, faut jongler avec tout, quoi.
Plein de paramètres, mais bon, c'est ce qui fait un peu le sel de ce travail, ouais, de jongler avec les paramètres économiques, les paramètres artistiques, les paramètres
et le temps qui passe.
Le temps qui passe, voilà.
Alors, puisqu'on te tient sur cette question, Harold, des créations et des résidences, j'en profite un peu à chaque fois que je vous ai maintenant les différentes personnes du théâtre de Die et l'association Festival Est-Ouest pour qu'on essaie d'aller un peu plus profond dans vos manières de travailler.
Ouais.
Qu'est-ce que ça engage pour vous, association, d'accueillir des gens en résidence?
C'est un engagement de part et d'autre, en fait. C'est-à-dire que je considère qu'on est, quand on est dans un accueil en résidence, dans une logique de partage, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais qui se traduit concrètement par des engagements réciproques, à la fois de la part du théâtre, bien évidemment, mais aussi de la compagnie.
Donc vous passez des conventions
des conventions, on définit des cadres qui sont assez ouverts, parce que c'est vraiment chaque projet qui va conditionner le format de la convention, etc. En général, on est dans des logiques de préachat de spectacles. Et dans leur stratégie de production, c'est important d'avoir du préachat, parce que ça leur permet d'obtenir d'autres aides par ailleurs pour boucler leur montage de production.
Donc ils savent le spectacle qu'ils pourront jouer en sortie de création sera payé par...
Voilà, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Et après, on prend en charge évidemment tous les frais liés à leur accueil au théâtre, que ce soit leurs frais de transport, leurs frais d'hébergement, leurs frais de restauration, et puis la communication évidemment autour du spectacle, et aussi les frais techniques qui peuvent être, qui sont forcément inhérents à un projet de création, que ce soit en termes de personnel ou de matériel nécessaire, c'est-à-dire on loue pour dire
tout le matériel est là. Ouais.
Ils ont évidemment tout ce qui est à disposition sous la main, mais des fois ça ne suffit pas, parce que chaque projet a des spécificités qui fait qu'on est obligé de louer du matériel extérieur. Donc tout ça, c'est un engagement qu'on prend en termes d'accueil au sens large du terme, à la fois sur la prise en charge de l'ensemble des frais que j'évoquais, et une logique de préachat au niveau du spectacle. Et j'aime pas le mot, mais on va dire en contrepartie, mais c'est pas comme ça que les choses se passent.
Alors, du côté des artistes.
Mais plutôt du côté des artistes, parce que c'est pas une logique d'échange, et qu'en général, si les compagnies viennent en résidence, c'est que souvent elles ont envie d'être aussi présentes sur le territoire et d'aller à la rencontre des publics de ce territoire. Du coup, on élabore en général général un certain nombre d'actions diverses et variées qui vont se traduire par une forme de présence et de relation de l'artiste avec les publics. Alors ça peut être des stages, là on a fait ce week-end, le week-end qui vient de se passer, un stage théâtre ouvert au tout public qui a animé Sarkis Tchomlegjian, qui était donc le metteur en scène de Pedro Páramo qu'on a présenté la semaine dernière. Mais c'est aussi des interventions milieu scolaire, des interventions auprès de publics de personnes âgées, c'est aussi des temps de rencontres, de répétitions publiques, de lectures ou de conférences, par exemple, comme autour de la musique baroque. Enfin voilà, c'est de construire véritablement un projet culturel à partir d'un projet artistique qu'on accompagne sur le plan de la création, quoi.
C'est ce que vous appelez les actions culturelles, en fait.
C'est ce qu'on appelle l'action culturelle, oui, l'éducation artistique. Ouais.
Tu disais, du côté des artistes, bon, c'est presque prévu quand même à l'avance. Ils savent qu'il va y avoir de toute façon
ça. Oui, de toute façon, pour monter des actions culturelles ou quand on travaille avec l'éducation nationale, etc., on ne peut pas faire ça à la dernière minute. Donc c'est forcément anticipé et c'est forcément discuté au moment où on élabore le projet ensemble ou qu'on construit en fait le projet en fonction, nous, de ce qui nous semble pouvoir être pertinent par rapport au public qu'on souhaite toucher et puis eux aussi par rapport aux propositions qui peuvent amener sur le plan de la pratique artistique, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment un échange et puis une co-construction du projet très, très en amont et ils savent qu'ils viennent faire ça, sachant que dans, je dirais pas 100% des cas, mais dans 80% des cas, quand ils font ce type d'intervention, la plupart des artistes sont rémunérés. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ça gratuitement en contrepartie de l'accueil.
Ouais, en plus, c'est ça.
On fait en sorte de trouver des financements pour pouvoir rémunérer leurs interventions, en tout cas sur une partie, peut-être pas 100% tout le temps, mais sur une partie de leur intervention auprès des publics, quoi.
C'est pas un peu le bonheur d'être pris en charge par un théâtre, en fait, pour un artiste? Parce que là, c'est du dans le bec du début à la fin.
Oui, tout à fait. Si, je pense que, enfin, en tout cas, les retours de ceux qu'on a pu accueillir jusqu'à présent, c'est plutôt effectivement dans ce type de retour-là qui nous est transmis. Parce qu'effectivement, c'est des conditions où on est pris en charge d'une certaine manière. Donc, c'est forcément un confort de travail qui est pas négligeable quand on sait comment sont les conditions de production aujourd'hui. Donc, c'est sûr que de pouvoir développer ce type de partenariat et c'est un plus effectivement pour les compagnies quand elles font ce type de rencontre-là avec des lieux, mais on est loin d'être les seuls ça, hein. Quasiment tous les lieux en Rhône-Alpes, quand ils sont dans des logiques de
développement artistique
ouais, de services publics, enfin voilà, ils font tous ce type de travail là, quoi.
Alors la question se pose, alors qu'on entend souvent que la culture est de moins en moins subventionnée, on l'entend, de moins en moins aidée, voire de moins en moins soutenue, peut-être même par le privé. Vous, votre travail d'association, et puis les autres pareil, hein, mm-hmm, c'est donc de chercher de l'argent pour que ça se fasse quand même. Vous êtes des, c'est vous qui produisez la culture de manière indirecte?
Oui, clairement, c'est ça. Enfin, une grande partie de mon travail, là, pour le coup, c'est moi qui suis directement sur le pont, sur ces affaires-là, c'est effectivement d'aller mobiliser des partenaires pour accompagner les projets qu'on leur propose. Donc, c'est beaucoup de...
Pour citer un peu les partenaires, pour voir, genre ça tape large.
Non, ça tape très large. L'association.
Le truc le plus aberrant, tiens. Pour toi, le financeur le plus aberrant. Le truc où on s'attendrait le moins qui finance ce genre d'action.
Il n'y a pas de financeur aberrant. Ceux qui ont envie d'accompagner des projets culturels, ils sont les bienvenus. Dès lors qu'ils ne sont pas là pour blanchir de l'argent ou d'être dans ce type de logique. Donc, non, il n'y a pas de financeur aberrant. De mon point de vue, sinon, une aberration, en tout cas quelque chose qui est extrêmement lourd pour nous à gérer, mais qui est lié à la réalité française des financements de la culture au jour d'aujourd'hui, c'est que au niveau de l'association, c'est-à-dire quand on cumule l'ensemble des activités que l'association organise, que ce soit le théâtre, le festival Est-Ouest, le festival des Espiègleries, et puis maintenant là pour 2014 la fête de la transhumance, c'est qu'on est un exemple totalement atypique et en même temps un archétype du millefeuille administratif au niveau des financements français. Quoi. Enfin, c'est voilà, quelque chose d'absolument qui, pour le coup, j'aurais presque effectivement envie de mettre le mot aberrant là-dessus. Par exemple, auprès de certaines collectivités, je pense notamment à la région Rhône-Alpes, on est financé sur maintenant quasiment 10 lignes différentes au sein d'une même collectivité.
Des champs culturels, sur des champs économiques, sur enfin,
ouais, ouais.
Développement local.
Parce qu'on va avoir, on a une subvention pour le Festival Est-Ouest, on a une subvention pour le fonctionnement du théâtre, on a une subvention dans le cadre de la labellisation Seine-Rhône-Alpes. Ça nous arrive d'avoir des subventions au niveau de la Direction des Affaires Internationales sur le festival, d'en avoir aussi sur le FIAC, un programme destiné à promouvoir la médiation et l'action culturelle. On en a maintenant avec des demandes que j'ai faites récemment pour la fête de la transhumance avec le plan pastoral territorial qui est aussi de l'argent de la région. Enfin, voilà, on a une espèce de multiplicité comme ça de financement au sein d'une même collectivité et donc on passe énormément de temps à faire des dossiers, à les monter, à les défendre et ensuite à les solder parce qu'une fois qu'on a obtenu effectivement les moyens sollicités, ensuite il faut pouvoir les percevoir. Donc au niveau de l'association, ça c'est quelque chose d'assez aberrant. Oui.
Bon, mais ça crée de l'emploi. Hein.
Ça crée de l'emploi, mais je pense qu'on pourrait consacrer notre temps et notre énergie si les choses étaient structurées de manière un petit peu plus rationnelle différemment. Bon, après, c'est aussi la diversité des activités de l'association qui font que voilà, le spectre des moyens possibles s'élargit, puisqu'en fait, chaque champ disciplinaire au niveau de la culture a ses sources de financement propres. Donc si, comme nous, on fait du spectacle vivant, de la littérature, par exemple, dans le cadre du Festival Est-Ouest, en fait, à chaque fois, on a des organismes spécifiques au-delà des collectivités qui, et de l'État qui vont correspondre à tel ou tel type d'activité. Donc, à chaque fois, c'est un nouveau dossier, c'est une demande spécifique, etc. Quoi. Et contrairement à des structures qui ont un montage plus classique où en général un théâtre, comment ça fonctionne dans 90% des cas en Rhône-Alpes, il y a effectivement un fonctionnement qui est assuré par les collectivités locales, c'est-à-dire en l'occurrence la ville ou la communauté de communes ou d'agglomération qui assure le socle, et puis viennent spécifiquement ensuite sur des projets, etc., s'ajouter l'État, les autres collectivités territoriales. Ici, à Die, on n'est pas du tout dans cette configuration-là, pour la simple et bonne raison que...
Il n'y a pas de base stable.
C'est pas qu'il n'y a pas de base stable, c'est que le territoire n'a pas les moyens seul d'assumer le fonctionnement d'un théâtre. Et je dis ça non pas pour jeter la pierre à la ville ou à la communauté de communes, puisque je sais qu'ils font au maximum de leurs possibilités, mais la réalité économique du territoire et de ses ressources font qu'on est dans un montage qui ne peut passer que par une solidarité amenée par justement l'État et les autres collectivités que sont notamment le département et de la Drôme et la région Rhône-Alpes. Ça multiplie les dossiers et un montage très, très particulier. Quoi.
Voilà,
c'était un peu technique.
Du théâtre de Die, il est question et c'est bien de savoir comment ça fonctionne quand même. Si. Autour de ces quatre grands temps forts d'accueil de résidence, on a beaucoup parlé de Pedro Páramo. Vous pouvez aller chercher les différentes interviews qu'il y a eu sur l'antenne en tapant Pedro Páramo par exemple, et notamment une belle interview de Sarkis Chakmeljan, j'arrive enfin à le dire. Une interview va arriver également pour présenter la soirée du samedi 8 février, Winter Bass Session avec Psycho by Dub et les groupes Bass Couture, TD Plus Sound System et Nomatics. Est-ce que tu voudrais nous parler plus profondément?
Les prochains rendez-vous, qu'ils vont arriver tout de suite. Là, on en a la semaine prochaine, on accueille une jeune compagnie Rhône-Alpine, donc la compagnie Les Yeux Grands Ouverts, qui propose un très très beau spectacle autour du Don Quichotte de Cervantes, mais revu et corrigé
de façon contemporaine.
Pas mal de techniques.
D'engrenage, de machin.
Voilà, oui, c'est ils ont toute une comment dirais-je, une scénographie
mécanique,
etc., avec une espèce de ville qui s'emboîte, qui se désemboîte, qui bouge, enfin, etc. Donc c'est vraiment un très très beau spectacle qui est plutôt drôle dans son esprit. et avec une équipe de jeunes comédiens, jeunes metteurs en scène, vraiment plein d'énergie. J'invite vraiment le public à venir découvrir ce travail qui est presque une création, puisqu'ils l'ont créé là en début d'année 2014. Donc ils l'ont joué à Lyon, je crois, et puis dans une autre ville de Rhône-Alpes juste avant de venir à Die. Donc vraiment venez découvrir voilà, ce travail à fois théâtral, musical et visuel, tout à fait étonnant. Ça sera donc le mardi 4 février. Ensuite, je vais peut-être parler aussi d'un partenariat qu'on a avec la Comédie de Valence qui permet d'emmener des spectateurs du théâtre
à l'extérieur
et donc à la Comédie de Valence. Donc là, on a deux rendez-vous qui sont prévus sur cette ce premier semestre 2014. Un premier donc, qui est le mercredi 12 février où on vous propose de venir écouter Olivier Py, donc metteur en scène, comédien, auteur, mais qui depuis plusieurs années a créé un personnage qui s'appelle Miss Knife, qui a un répertoire de chansons, donc on est vraiment dans de la chanson, mais avec des textes tout à fait particuliers, puis la personnalité d'Olivier Py, qui crée une espèce de personnage de travesti, voilà, autour de cette figure de Miss Knife.
De diva un peu, hein.
Oui, tout à fait.
Quand on regarde la photo.
Ouais, ouais. C'est ça.
Ça rutile.
Et puis, un autre rendez-vous sorti à la Comédie de Valence, donc cette fois fin mars, avec un très beau spectacle mis en scène par Joël Pomerat qui s'appelle Cendrillon, donc, et là aussi une relecture du conte de Cendrillon, mais avec justement l'univers très particulier du metteur en scène Joël Pomerat. C'est à peu près tout public, hein, pour les enfants et les adultes. Il y a plein de niveaux de lecture, c'est vraiment un travail là aussi tout à fait étonnant. Donc il reste encore quelques places là pour ces sorties, donc il ne faut pas hésiter à réserver. Puis en plus, c'est toujours assez sympathique.
Là, on prend le bus, on part.
Voilà, on prend le bus, on part ensemble, on boit des coups ensemble à la Comédie de Valence, on échange sur le spectacle en venant. Enfin voilà, c'est plutôt des moments sympas.
Donc ça, c'est le 29 mars.
Hein. Voilà, donc 29 mars pour Cendrillon. J'évoquais donc le spectacle de conte là, qu'on va voir au mois de février, Rouge Mémère, cette création avec Virginie Comagnacchi. Là aussi, on est dans une relecture. C'est un des fils rouges, hein, de toute façon, de ce premier semestre. Ce travail de relecture.
Et oui, il y a toujours un thème.
Oui, enfin, c'est un peu les spectacles qui imposent du coup un fil rouge qui se dégage au bout d'un moment. Et effectivement, un des axes, c'est voilà, la relecture de mythes ou de contes ou d'histoires, ou d'œuvres littéraires patrimoniales. Donc, c'était le cas avec Pedro Páramo, c'était le cas avec Don Quichotte dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le cas avec Rouge Mémère sur l'histoire du petit chaperon rouge.
C'est le cas avec le dub aussi, parce que c'est que du remix, hein, la plupart du temps. La reversion. De la revisite.
On est donc en cohérence du début à la fin sur tous les aspects de la programmation. Cendrillon, ça va aussi dans ce sens-là. Et puis, l'autre axe de travail sur lequel on a un peu organisé cette programmation, ça va me permettre d'aborder un spectacle de danse qu'on va accueillir au mois d'avril, le 4 avril. C'est le dialogue justement entre le spectacle vivant et d'autres disciplines artistiques. Et donc là, avec N, l'étoile dansante, donc un spectacle de danse qu'on va accueillir le 4 avril, on est dans un dialogue entre la danse urbaine, donc de type hip-hop, et la philosophie de Nietzsche. Donc a priori deux choses qui ne sont pas censées forcément se rencontrer, mais que Aurélien Quéraud, donc le chorégraphe et interprète de ce spectacle, a réussi à faire avec énormément de brio et de talent et d'évidence, voilà, qui font que c'est un spectacle absolument lumineux, drôle, plein de poésie et du coup avec une approche de la danse urbaine qui se coltine à Nietzsche d'une manière tout à fait étonnante, quoi. Et c'est du coup complètement accessible. Voilà. Ensuite, on va accueillir au mois d'avril, fin avril, un autre spectacle là aussi du répertoire, puisqu'il s'agit de la dispute de Marivaux. Pour l'instant, dans le programme, on a mis la photo de Marivaux parce qu'on n'avait pas d'image du spectacle vu qu'il est complètement en création. Et ça devrait être un beau moment de théâtre et aussi là, plein de vitalité de jeunesse, puisqu'en fait, c'est une production qui est née d'un partenariat entre la Comédie de Valence et l'ENSAT. L'ENSAT, donc, c'est une des écoles nationales qui forme des comédiens, des metteurs en scène, des dramaturges, des techniciens, etc. C'est le spectacle de fin de promotion, en fait, de l'ENSAT.
De l'école.
L'école, voilà. Et ils ont demandé donc à Richard Brunel, directeur de la Comédie de Valence, de mettre en scène ce texte de Marivaux, avec justement toute cette équipe de l'ENSAT.
De frais comédiens.
Et donc, du coup, on accueille pendant 4 jours 45 personnes là, pour cette production, avec effectivement les comédiens, mais aussi tous les corps de métier qui sont associés à un spectacle, que ce soit en technique, en administration, etc. Enfin, vraiment, tout est... tous les corps de métier qui sont enseignés donc dans l'ENSAT se retrouvent impliqués dans ce travail de création, voilà, qui est une sorte de mise en route. Voilà, donc c'est un spectacle, à mon sens, complètement professionnel, parce que quand ils sortent de l'ENSAT, ils sont prêts à entrer sur le marché du travail. Donc voilà, ce sera, je pense, une belle aventure. Puis il y a pas mal d'actions qui vont être faites avec des interventions sur le marché. Enfin bon, voilà, il y a pas mal de choses assez marrantes, quoi. Voilà, et puis ensuite, un petit peu après, toujours fin avril, on a un spectacle cette fois plus jeune public avec la compagnie du Jabron Rouge, qui est une compagnie qu'on a déjà accueillie en marionnette. Voilà, jeune public, mais avec sa dernière création, donc, qui s'appelle le Petit Rien, et qui est une histoire de petit garçon qui se retrouve confronté au temps qui passe, et comment est-ce qu'il va pouvoir conquérir son identité face à une différence qu'on va découvrir dans le spectacle, voilà, et prendre confiance en lui, et puis s'ouvrir vers les autres. Donc c'est là aussi toujours avec des messages très généreux, on va dire, et c'est pour tout public à partir de 3 ans. Et puis on va terminer donc au mois de mai avec Tocatram, dont on a déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus.
Et on va les rencontrer aussi à Erdiwa, donc on aura une petite suite.
Super. Et puis ensuite, il y aura donc le mois de juin qui est principalement consacré à la pratique amateur, donc où le théâtre accueille pas mal de productions amateurs qui sont portées par des structures du territoire. Et donc voilà, ça occupe une bonne partie du mois de juin, sachant que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc là, ce n'est pas dans le programme, puisqu'on n'avait pas encore tous les éléments pour pouvoir l'annoncer dans le programme. Il y aura les 30 et 31 mai, donc le festival des Espiègleries, donc
autour qui change de, un petit peu de formule. Clairette,
qui change un petit peu de formule, et en même temps, pas tant que ça, finalement, qui va exister différemment dans la ville, on va dire, pour toute la partie de promotion de la Clairette. Mais sinon, il y aura une programmation de spectacle au théâtre, comme précédemment, autour du thème de la musique et de l'humour musical. Et puis, on est en train de travailler donc aussi avec
la
transhumance pour la fin du mois de juin, enfin les 21 et 22 juin. Donc voilà, pour l'instant, comme tout ça s'est décidé fin décembre, c'est encore tout frais. Et donc, on est un peu dans le compte à rebours là, pour que tout soit prêt en temps et en heure. Mais ça avance bien.
Spécialisé.
Oui, il y aura
un
programme spécifique, voilà, qui
spécifique,
sera
dédié
à chacun des événements, que ce soit pour les Espiègleries ou la Transhumance. Je pense que pour les Espiègleries, ça devrait sortir d'ici dans le courant du mois de février, et puis la Transhumance, j'espère, en mars, on aura finalisé. Voilà, mais bon, comme c'est tout nouveau pour nous, la Transhumance, donc il y a un petit temps d'adaptation et d'imprégnation du sujet et de la structuration.
Vous dormez sur des pots de bêtes maintenant.
C'est ça.
Vous êtes allé rencontrer des éleveurs locaux, ce genre de choses, non?
C'est mon travail du mois de février là. Ouais.
Bon, pas très bien.
Voilà. Alors, pour l'instant, la première phase, c'était déjà reprendre toute la partie administrative, etc. Faire la demande de financement qui était restée en stand-by, puisqu'il n'y avait plus vraiment de porteurs de projets structurés. Donc voilà, j'ai déjà passé une première partie.
Et rien n'a été perdu?
Non, au contraire. C'est bien. Bien accompagné, et puis ça a été bien préparé par la FDO qui.
Elle n'a pas laissé un vieux machin, quoi.
Ah non, du tout. Puis ils sont toujours impliqués dans le processus de préparation, mais voilà, ça, du coup, ça prend quand même un petit peu de temps de se familiariser avec tout ce contexte un peu inédit pour nous, quoi.
Eh ben, on vous souhaite bien du bonheur alors, avec tout ça.
On n'en manquera pas, j'en suis sûr.
Programmation du théâtre de Die avec, avec Harold David. Donc, réservation 04 26 58 80 35. Et puis, sur le site internet du théâtre de Die.com, on peut aller voir aussi les autres sites. Il me semble qu'il y a un site dédié justement aux espiègleries.
Oui, oui, tout à fait. Donc, www.les-espiègleries.com. Et il y en aura probablement un aussi pour la transhumance. Voilà. Ouais.
Vous faites plein de sites. C'est la folie.
Une manifestation, un site. Allez hop.
Donc un site pour le festival, un site pour le théâtre, un site pour les espiègleries, un futur site pour la transhumance. Vous ne pouvez pas rater les renseignements. On trouve aussi le programme un peu partout. Vous le distribuez, on le rappelle, à n'en plus finir. Voilà.
On essaye, oui.
En tout cas, moi je le vois souvent. Et merci Harold, à la prochaine.
À la prochaine.